Ça s'appelle Au détour d'une rencontre.
C'est une émission qui vous propose de partir à la rencontre d'une personne, d'un projet, d'un métier, d'un engagement, d'une réalité de vie.
C'est une émission qui parle des autres, qui parle de soi, qui questionne ce que nous sommes, ce qui est, ce que nous faisons, dans quel but.
Je m'appelle Léa, j'ai 31 ans, j'habite à Paris. Ça a commencé par le cri, je crois. J'étais un bébé et une enfant qui hurlait beaucoup, longtemps. Et puis, avec l'âge, ça s'est transformé en quelque chose d'un peu plus, on va dire, politiquement correct. Donc, il y a eu un temps où c'était un peu la comédie musicale à la maison, enfin, un peu les parapluies de Cherbourg, c'est-à-dire qu'au lieu de parler, je chantais pour dire tout ce que j'avais à dire. Et ensuite, à 6 ans, ma mère m'a inscrite au conservatoire de musique. Et du coup, quand on est petit, il n'y a que l'instrument qui est possible. Donc j'ai choisi le violoncelle. Et dans la formation, j'avais solfège et chorale obligatoire. Et très vite, j'ai préféré de loin la chorale au violoncelle. Et voilà, après, il y a eu des trous. J'ai été en musique-études au chant. Fin primaire, début collège, mais ça m'a dégoûtée du chant parce qu'il y avait un esprit très compétitif. Du coup, j'ai plus ouvert la bouche de la cinquième à la seconde. Et au lycée, je me suis retrouvée, j'avais pas des bonnes notes à l'école, donc je me suis retrouvée dans l'avant-dernier lycée de Paris, où il y avait une classe musique, donc ma mère m'a dit « Surtout, prends ça pour essayer de remonter le niveau du reste. » Et il y avait une chorale, donc pas du tout classique, jazz, rock, enfin c'était le foutoir. Mais je suis revenue à un plaisir, j'ai repris le goût du chant, juste se faire plaisir avec d'autres gens. Et après, de fil en aiguille, il a fallu faire quelque chose après le bac. Et j'ai tenté le conservatoire, j'ai été prise à 18 ans et puis ça a continué quoi. Mais en fait, c'est étrange, j'ai jamais voulu être chanteuse.
Et chanteuse, ça peut être beaucoup de genres, beaucoup de tonalités, beaucoup de... Comment tu as été accompagnée pour choisir ta voix en tant que chanteuse ?
Ça, je crois que ça s'est fait un peu malgré moi, parce que comme j'étais dans un cursus classique depuis toute petite, moi, le chant que j'avais dans les oreilles, c'était du chant lyrique. En plus, donc, j'avais ça dans les oreilles et j'avais le discours que le chant de variété ou de musique traditionnelle, etc., c'était un peu le chant pour les nuls, quoi. Donc j'avais ça. Donc, la question s'est vraiment pas posée, en fait. Elle se pose plus maintenant, ces dernières années, qu'à l'époque. Alors moi, au niveau de ma tessiture, il n'y a jamais eu de doute. Enfin, je suis vraiment soprano coloratour, donc c'est vraiment le plus aigu. Enfin, donc ça, c'était très clair, ma voix chantée et ma voix parlée. C'est pas forcément lié. À l'époque, c'était vraiment une voix d'ado, quoi. Donc c'était très... très clair, très cristallin... Et après, c'est plus au niveau de mon ressenti que... Enfin, je sais pas, je pense que c'était quelque chose d'assez libre, d'assez innocent, qui se posait pas trop de questions et qui était plein d'envie, quoi. Et qui chantait un peu comme elle parlait. Quotidiennement, il y a à la fois donc vraiment des trucs de musculaires. Donc moi, par exemple, ça passe beaucoup par le yoga, le pilates, des étirements. Donc ça, c'est vraiment les muscles inspirateurs, expirateurs, le diaphragme. Pour le souffle, tout ce qui est... Alors la natation, c'est le truc génialissime. Après, le problème, c'est que si on est un peu sujet à tout ce qui est rhume, rhinite, c'est super, et en même temps, on est tout en malade, donc c'est galère. Faire du cardio, en fait, ça, c'est important. Faire un peu de muscu, alors pas trop, parce qu'en fait, ce qui travaille pour le chant, c'est vraiment les muscles profonds. Donc faire vraiment des trucs gonflettes, c'est même contre-productif, parce qu'en fait, il ne faut pas non plus être trop musclé en surface. Enfin, il y a un muscle qui est le grand droit, qui, lui, pour le coup, doit vraiment être souple. Et c'est plutôt les transverses, les obliques qui doivent être costauds. Donc moi, je fais une machine pour le dos, en fait, pour vraiment ouvrir le dos derrière. Parce qu'on a tendance à se voir en 2D, mais on est 3D, puis on chante en 3D. Et en fait, le dos, c'est une des parties les plus importantes. Donc ça, c'est pour la partie sous le cou. Pour la partie au niveau du cou, le plus gros handicap pour la majorité des gens, c'est la langue. Donc moi, je sais que j'ai fait pas mal de rééducation de ma langue. Parce que l'idée, c'est que... Enfin, c'est énorme comme muscle. Et c'est qu'elle puisse glisser derrière pour laisser le plus d'air possible passer. Pour avoir le plus de coffre. Voilà. Et puis après, même les voyelles, il y a plein de jeux à faire. L'idée, c'est que... C'est d'en faire le plus possible, mais avec le moins d'efforts possible. Donc ça, c'est pour la partie purement... Et puis bon, après, il y a le travail de la voix. Donc là, c'est des vocalises... donc chacun a ses exercices en fonction de ses facilités, en fonction de... Moi, je sais, par exemple, les très aigus, il n'y a aucun souci. Et même si on va m'embaucher pour mes aigus, ça a été très important que je travaille mes médiums et mes graves pour avoir vraiment un spectre vocal qui soit solide et homogène de bas en haut. Voilà, donc dans les morceaux qu'on choisit, il y a des morceaux que je chante pour moi dans le travail, que je chanterai peut-être seulement dans 10 ans sur scène, d'autres que je sais que je ne chanterai jamais parce que ce n'est pas du tout pour moi, mais c'est intéressant, là, maintenant, tout de suite, de travailler cette chose-là pour tel point technique. Et après, on chante beaucoup dans des langues étrangères, donc juste déjà traduire ce qu'on chante pour comprendre ce qu'on dit. Après, il y a un travail un peu de... On a globalement des histoires assez pas trop compliquées par rapport des fois au théâtre, mais il y a quand même un peu un travail aussi de dramaturge, de voir un peu le fil, enfin, ce que traverse notre personnage de A à Z. Donc là, c'est un peu à côté, mais c'est un métier qui, au quotidien, surtout aujourd'hui, qui est quand même compliqué, parce que le secteur va très mal. Et... Donc il y a aussi un travail un peu psy à faire sauf pour ceux pour qui ça marche très très bien, mais ça va être d'autres problématiques de pression et de toujours rester à niveau, etc. Et un peu aussi des fois de vendre son âme au diable, donc voilà. Mais pour ceux qui galèrent vraiment ou qui sont entre deux, il y a aussi de plus en plus un travail de distanciation et de savoir ce qui est de notre ressort et ce qui est systémique pour pas se battre contre Goliath et être dégoûté du métier. Moi, il y a deux rôles que j'aime bien en ce moment et c'est marrant parce que les deux personnages s'appellent pareil. Elle s'appelle Adèle. Donc il y a une Adèle dans le Contori de Rossini. Donc c'est un opéra qui est écrit en français. Donc c'est un opéra comique, donc c'est entre l'opéra, on va dire, seria et l'opérette. Donc c'est l'histoire d'un... Donc le Contori, c'est un conte, qui se cache pour pas partir à la guerre avec les autres hommes. Et pour pouvoir rester avec deux, trois copains, séduire toutes les femmes qui restent. Et il y a donc Adèle, qui est une comtesse, une autre, qui elle est complètement désespérée d'être sans garçon autour d'elle. Et en plus, son frère a bien fait en sorte de tout verrouiller pour que personne ne s'approche. Et après, c'est toute une histoire où le Contori va au début se déguiser qu'on appelle ça, en espèce de druide, puis après il va se déguiser en nonne, etc. Donc c'est vraiment un truc drôle avec une espèce de scénette à trois dans un lit à la fin de l'opéra. Donc déjà, c'est assez drôle à jouer. Rossini, c'était quelqu'un d'assez truculent, donc ça vocalise de partout, c'est... y a vraiment après, ça dépend des voix. Moi, je sais que je suis très à l'aise dans ce répertoire-là, par exemple. Mais du coup, il y a un plaisir physique à chanter ça aussi. Puis à savoir qu'en fonction de la voix qu'on a, on a des rôles types. Et un rôle type, physique type. Donc c'est plus ou moins une bonne chose. Surtout quand c'est poussé à l'extrême. Moi, j'ai la chance d'avoir le corps qui correspond à ce que pensent les employeurs de ce que devrait être cette rôle-là par rapport à ma voix. Et c'est vraiment les jeunes premières, mais moi, je suis plutôt un profil pour faire les coquettes, les soubrettes, Donc l'autre Adèle, c'est dans une opérette de Strauss. Et c'est un bal costumé, et c'est une servante qui se déguise en noble. Enfin voilà, c'est vraiment plus ce genre de choses. Mais c'est très, très chouette à jouer aussi. Mais c'est vrai qu'on a un emploi. Et des fois, malheureusement, on a un physique qui colle pas du tout avec son emploi. Et il y a des personnes qui peuvent... Après, c'est des problématiques qui sont assez récentes, mais qui ne peuvent pas travailler à cause de ça. Parce qu'en face, dans les metteurs en scène, dans les directeurs d'opéra, dans les décisionnaires, ça se projette pas, quoi. La taille, le poids, le physique est un frein. Il y a plusieurs agences artistiques en France. Il y en a même pas mal. J'ai pas d'agent. Parce que juste, j'en ai pas trouvé. donc soit ils recrutent, par exemple dans les écoles nationales, souvent les examens de fin d'année, les examens de fin de master, il y a des agents, je pense pas dans le jury, mais dans le public, parce que c'est des examens ouverts. Donc ça sert vraiment d'audition, voilà. Après, il y en a qui repèrent dans des spectacles, qui repèrent dans des concours, il y a beaucoup de compétitions. Après, il y a des auditions, ils font des appels à candidature pour des auditions générales. Et après, c'est de la candidature spontanée. Et après, l'agent, c'est comme au cinéma, il prend... Alors, des fois, ça varie, mais en gros, c'est ça, ils prennent 10%. Aujourd'hui, j'ai pas trop d'actualité parce que c'est très compliqué. Là, j'ai une reprise d'un spectacle qu'on a créé avec un ensemble baroque qui s'appelle Les Paladins, qu'on a créé au printemps 2023, qu'on reprend à Bourges dans 10 jours. Ça s'appelle Café Liberta. J'ai un récital à Vendôme dans la foulée pour du répertoire romantique. Donc ça sera avec un baryton et un pianiste. Où on fait des extraits d'opéra, donc on a chacun des airs et puis des duos ensemble. Après moi j'ai créé un spectacle autour de la compositrice Lily Boulanger et de la poétesse Alicia Gallienne. Lily Boulanger est décédée à 24 ans en 1918 et Alicia Gallienne est décédée à 20 ans en 1990, donc elles ne sont pas du tout connues mais elles ont des parcours de vie étrangement similaires. Et du coup j'ai créé un troisième personnage, j'ai créé un personnage qui est un mélange des deux qui s'appelle Alma et du coup on suit Alma dans une journée et il y a des musiques de Lily Boulanger, des poèmes d'Alicia Gallienne qui sont soit dits par la pianiste qui est également comédienne, soit qui ont été mis en musique par un ami compositeur qui s'appelle Hugo Massé, et du coup je les chante. Donc on est deux sur scène, la pianiste comédienne et moi. Donc ça c'est un spectacle qu'on a créé en mars dernier à Strasbourg, qu'on a rejoué deux fois à Paris et à Cherbourg depuis, et que j'essaye de vendre. Et j'ai aussi un duo piano-voix avec un pianiste, où là on a deux programmes, on a un programme de musique allemande avec de la musique de Richard Strauss et de Victor Ullmann et un autre programme de musique finnoise, je ne sais jamais comment on dit. Donc là on a de la musique de Jean Sibelius et la musique d'une compositrice qui est décédée il n'y a pas longtemps qui s'appelle Kaya Saariao. Voilà, donc ça pareil, c'est des choses qu'on travaille, qu'on monte, qu'on travaille entre guillemets gratuitement. Et qu'après, on essaye de vendre. Mais là, la situation actuelle est assez dramatique. Du coup, on fait ce qu'on peut. Moi, je suis intermittente du spectacle. Donc faut que j'ai mes 43 cachets et 507 heures renouvelées tous les ans pour garder le statut. Donc vraiment c'est très... Enfin il y a des années où ça se... Je rempile pour une année avec le double de ce dont j'ai besoin et puis l'année d'après ça va être au cachet près à la dernière minute. Moi je trouve que 507 heures c'est assez honnête comme demande. De nombre d'heures. C'est pas assez, mais c'est pas non plus un truc inaccessible. Mais quand on a la chance d'avoir une prod d'opéra, deux prods d'opéra, et on a presque tout en fait, parce que c'est énormément de dates de répétition. Et les artistes lyriques, on est les mieux payés de tous les artistes du spectacle vivant. Donc c'est quand même pas mal. par rapport aux comédiens, bon, danseurs circassiens, j'en parle même pas, c'est honteux. Mais voilà. Mais par contre, si on n'a pas la chance d'avoir ces productions-là, là, ça peut vite être la panique, quoi. Et du coup, il y a plein d'artistes qui complètent en faisant, par exemple, pas mal de figurations. Donc ça peut être des figurations dans le spectacle vivant, mais aussi dans le cinéma. Je dis peut-être une bêtise, mais je crois qu'en fait, on ne peut pas mélanger les cachets artistes et techniciens, parce qu'en plus, ce n'est pas le même nombre d'heures qu'il faut à la fin. Mais par contre, en tant qu'artiste, je peux valider mon intermittence avec n'importe quel poste d'artiste. Si je décide de faire du jonglage dans la rue et que quelqu'un me paye pour ça... Et alors là, c'est très personnel, mais moi, je trouve que d'être rattaché à France Travail, d'un point de vue purement déjà pratique, c'est pas top. Et puis surtout, aussi par rapport à ce que ça nous renvoie, enfin, c'est très compliqué parce que du coup, on est chômeur, en fait, pour l'organisme. On doit pointer tous les mois. Alors, à part les départements France Travail Spectacle, donc celui de Paris est extraordinaire. En région, c'est vraiment... ça dépend des villes. Moi, j'ai été un moment à Strasbourg et c'est une catastrophe. Enfin, vraiment, en fait, ils comprennent pas du tout ce que je fais et mes problématiques. Donc, on est vraiment tout seul. Il y a de plus en plus de contrôles et de pinaillages, etc. Bref, ça rajoute une charge et des sources de stress au reste, quoi. Juste bien chanter, c'est vraiment pas suffisant, quoi. Ça devient pareil que servir ses deux bras et ses deux jambes, quoi. Faut être chanteur, faut être entrepreneur, faut être instagrammeur, faut se positionner comme un produit. Et vraiment, maintenant, on peut plus faire l'impasse là-dessus. Enfin... Moi, je crois qu'à la base, je fais ça vraiment pour moi. Alors, je pense qu'il y a quand même un plaisir d'être avec le public. Parce que c'est pas du tout quelque chose de stressant pour moi d'être sur scène. Et c'est souvent là où je chante le mieux, au moment des représentations. Mais je sais que, avec des collègues, on en parle d'un peu pourquoi on fait ça et de comment on est arrivé là. Et il y a vraiment plein de parcours différents. Et c'est vrai que j'ai des amis qui ont vraiment des... Enfin, oui, des grandes théories sur ce qu'elles sont... Bon, en l'occurrence, c'est des filles, donc je veux dire elles. Sur ce qu'elles pensent donner et ce qu'elles doivent donner aux gens. Moi, je me dis que vraiment, je donne ce que je peux et ils reçoivent ce qu'ils veulent. Non, mais je... Dire divertissement, ça m'embête un peu, même si moi, je pense que je penche peut-être un peu plus vers ça quand même que faire vivre une transe. Après, bon, faut voir le public qu'on a aussi, quoi. Après, ça dépend des salles, mais en tout cas, alors pour le coup, j'ai vraiment l'impression d'être utile et de transmettre quelque chose et de faire quelque chose de bien quand je chante dans les hôpitaux de Paris. Quand je chante dans certaines grandes salles, que je vois des gens qui... Ça va peut-être les toucher sur le moment, ils aiment bien ça, mais... En même temps, c'est les mêmes gens qui... Bon, ça fait vraiment... truc personnel dans la tête de quelqu'un, mais ils vont aimer voir la personne sur scène parce que c'est paillette, etc. Mais par contre, la voir comme belle-fille ou la voir dans leur famille parce que c'est intermittent, ils en veulent pas. Ou c'est les mêmes gens qui vont dire qu'on est des gens foutres, que quand on essaie de manifester pour nos droits, que... Enfin... Donc c'est un peu... Après, je pense qu'il y a d'autres spectacles vivants où le public est peut-être différent. Mais nous, comme c'est un art, parce qu'il y a beaucoup de monde, en fait, tout simplement, pour créer le spectacle, qui coûte énormément cher, donc les places coûtent cher. Donc, forcément, ça... Même s'il y a plein de choses super qui se font pour attirer des nouveaux publics. Mais voilà, on reste avec un public de gens quand même assez privilégiés, assez âgés. Qui sont en fait à des années-lumière de nous, quoi. Enfin, pour être très honnête, je pense que ça fait des années que je vais pas bien à cause de mon métier. Mais je pense que c'est la pratique de mon métier, le fait que je chante, où vraiment, du coup, ça m'impose une hygiène de vie, ça m'impose une façon de respirer qui fait que je tiens quand même debout, parce que je pense que notre mode de respiration, c'est assez proche de la cohérence cardiaque, en fait, parce que finalement, c'est des très longues expirations, et c'est des inspirations qui sont très profondes, et qui peuvent être assez longues aussi. Alors après, c'est pas tous les chanteurs, mais moi, j'ai décidé de faire du yoga quasiment tous les jours, d'aller plusieurs fois à la salle de sport aussi. Et donc ça, je pense que ça me permet de pas être complètement cinglée, quoi. Mais bon, après, ça me... Surtout sur le point, d'un point de vue sur le plan matériel, c'est hyper dur. Donc il y a un moment où on se posait la question de qu'est-ce qu'on fait après. Si on a la chance d'avoir une bonne santé et qu'on n'a pas fait n'importe quoi avec notre voix, contrairement par exemple aux danseurs étoiles où c'est 42 ans, tous les, pas que d'étoiles, d'ailleurs, tous les danseurs de l'Opéra de Paris, 42 ans c'est la retraite, en tout cas de l'institution. Nous il y a des chanteurs qui chantent encore sur scène à 55, 60. Ça, voilà. Et puis ce qui est, là pour le coup je trouve magique dans la voix, ce que je trouve pour le coup magique dans la voix, c'est que ça. Elle évolue avec l'expérience, avec la technique. Avec l'âge, aussi avec ce qu'on vit. Et du coup, finalement, je sais pas, je pense que dans 5-10 ans, je pourrais chanter des trucs où je m'étais dit que ce serait... Mais même déjà maintenant, je chante des choses où à 20 ans, je me disais non, c'est pas pour moi, je pourrais jamais chanter ça. Je disais tout à l'heure que le chant, c'était... Enfin, de chanter, c'était un défouloir. Mais j'ai quand même dû trouver autre chose pour me défouler, parce que comme c'était devenu mon métier, ça devenait une source de... Enfin, c'était ça qu'il fallait que je défoule. Et c'est pas du tout que j'ai plus de plaisir à chanter, mais maintenant, c'est vraiment devenu associé à mon travail. Et j'arrive plus du tout à chanter pour me détendre. Je vais beaucoup plus danser pour... genre mettre de la funk ou ce genre de choses, et voilà, ça va être plus passé par là. Pour vraiment me dire, ok, là, on change de trajectoire, on arrête d'aller dans les tréfonds. Par contre, ce qui peut m'arriver de très positif, et par exemple, ça m'est arrivé tout à l'heure, mais ça va être plus la musique, c'est pas les paroles. Mais d'ailleurs, de manière générale, moi, la musique, quand j'écoute des chansons, c'est vraiment la mélodie. Les paroles, souvent, je fais pas trop gaffe, même quand c'est en français. C'est d'avoir un plaisir à chanter. Et en fait, je me rends compte que... là, du coup, j'ai chanté un truc de Rossini, donc avec beaucoup, beaucoup de vocalises. Je sais pas, c'est un peu rigolo, les vocalises, en fait. Et du coup, je sais pas, j'ai senti que mon corps quand même allait mieux, que je me mettais à sourire, etc.
S'il y avait une chanson qui devait résumer ta vie, ou un air qui devait résumer ta vie, tu choisirais quoi? Ou qui illustrerait particulièrement ta vie?
Donc c'est un air de... Donc c'est le premier air d'Adèle dans le Contori de Rossini, dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est un air qui s'appelle En proie à la tristesse. Donc... Elle pense à être condamnée à la chasteté toute sa vie, donc elle est complètement mais désespérée. Et c'est une espèce de mélodrame. Donc alors, on n'est pas tous d'accord. Il y en a qui pensent qu'elle est vraiment, elle, 100% désespérée, mais c'est juste tellement comique qu'elle se raconte qu'elle devient comique malgré elle. Moi, je suis plutôt, mais peut-être parce que je suis comme ça dans la vraie vie, à me dire elle est vraiment pas bien. Mais elle a quand même un peu un regard de côté où elle rajoute une couche parce que ça lui fait du bien. Et puis bon, en plus, dans l'histoire de l'opéra, elle est vraiment en public avec plein de gens. Donc c'est vraiment drama queen. Voilà. Et je pense que le caractère me résume bien, moi, je pense. Ensuite, c'est un air que je peux chanter. C'est un rôle que je peux chanter. C'est un rôle qui est fait pour moi. Et en fait, j'ai vu l'opéra en retrait. Donc c'était joué au Met à New York. Donc je l'ai vu, pas à New York, mais à la GEO en retransmission. Et j'avais, je sais pas, j'avais 19 ans, un truc comme ça. Et vraiment, j'avais trop... Enfin, il se trouve que cette production était assez dingue. Enfin, les chanteurs, la mise en scène, c'était hyper drôle, c'était très très bien chanté, voilà. Et donc là, pareil, c'est un peu un pendant de 10, 15 ans après de Chansons sous la pluie. Où là, je me suis dit, ah, ça a l'air quand même sympa de faire ça. Et oui, après, c'est un rôle qui m'a suivi encore jusqu'à maintenant. Parce que maintenant, je pense que je pourrais vraiment commencer de la chanter vraiment en production. Parce que des fois, on peut chanter un air de l'opéra, mais on peut pas chanter tout le rôle. Par exemple, Roméo et Juliette de Gounod. Là, il faudrait limite deux ou trois chanteuses pour faire le rôle. Son premier air, c'est une valse, où elle est toute contente. Donc ça, je peux le chanter. Après, par exemple, l'air du poison. Vraiment, moi, je chante ça. Je fais 6 représentations de ça. Je suis arrêtée pendant 6 mois. Enfin, il faut une voix beaucoup plus large. Et du coup, le conte au riz, enfin, le rôle d'Adèle, j'ai fait par petits bouts pendant toutes ces années, en fait. Les vocalises, du coup, comme c'est Rossini, c'est vraiment des pages entières de vocalises. Donc pareil, il y a des morceaux qu'on peut vraiment prendre comme exercice technique où on fait pas du tout les paroles, on fait juste les vocalises. Donc oui, c'est un truc qui m'a suivi, donc je dirais que c'est ça, ouais.
C'était Au détour d'une rencontre, réalisé par Patrick Orousseau.
Je vais au nom du nom des vents.